Étienne Bonneau de Condillac. Traité des sensations, partie 1. Des sens qui par eux-mêmes ne jugent pas des objets extérieurs. Chapitre 3. Des désirs, des passions, de l'amour, de la haine, de l'espérance, de la crainte et de la volonté dans un homme borné au sens de l'odorat. Le désir n'est que l'action des facultés. Nous venons de faire voir en quoi consistent les différentes sortes de besoins et comment ils sont la cause des degrés de vivacité avec lesquels les facultés de l'âme s'appliquent à un bien dont la jouissance devient nécessaire. Or, le désir n'est que l'action même de ces facultés, ce qui en fait la faiblesse ou la force. Tout désir suppose donc que la statue a l'idée de quelque chose de mieux que ce qu'elle est dans le moment et qu'elle juge de la différence de deux états qui se succèdent. S'il diffère peu, elle souffre moins, par la privation de la manière d'être qu'elle désire. Et j'appelle malaise, ou léger mécontentement, le sentiment qu'elle éprouve. Alors l'action de ses facultés, ses désirs sont plus faibles. Elle souffre au contraire davantage si la différence est considérable, et j'appelle inquiétude, ou même tourment, l'impression qu'elle ressent. Alors l'action de ses facultés, ses désirs sont plus vifs. La mesure du désir est donc la différence aperçue entre ces deux états, et il suffit de se rappeler comment l'action des facultés peut acquérir ou perdre de la vivacité pour connaître tous les degrés dont les désirs sont susceptibles. Une passion est un désir dominant. Ils n'ont par exemple jamais plus de violence que lorsque les facultés de la statue se portent à un bien, dont la privation produit une inquiétude d'autant plus grande qu'il diffère davantage de la situation présente. En pareil cas, rien ne la peut distraire de cet objet. Elle se le rappelle, elle l'imagine. Toutes ses facultés s'en occupent uniquement. Plus par conséquent elle le désire, plus elle s'accoutume à le désirer. En un mot, elle a pour lui ce qu'on nomme passion, c'est-à-dire un désir qui ne permet pas d'en avoir d'autres, ou qui du moins est le plus dominant. Comment une passion succède à une autre? Cette passion subsiste tant que le bien qui en est l'objet continue de paraître le plus agréable, et que sa privation est accompagnée des mêmes inquiétudes. Mais elle est remplacée par une autre si la statue a occasion de s'accoutumer à un nouveau bien auquel elle doit donner la préférence. Ce que c'est que l'amour et la haine. Dès qu'il y a en elle jouissance, souffrance, besoin, désir, passion, il y a aussi amour et haine. Car elle aime une odeur agréable dont elle jouit ou qu'elle désire. Elle hait une odeur désagréable qui la fait souffrir. Enfin, elle aime moins une odeur moins agréable qu'elle voudrait changer contre une autre. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer qu'aimer est toujours synonyme de jouir ou de désirer, et que haïr l'est également de souffrir du malaise, du mécontentement à la présence d'un objet, l'un et l'autre susceptibles de différents degrés. Comme il peut y avoir plusieurs degrés dans l'inquiétude que cause la privation d'un objet aimable, et dans le mécontentement que donne la vue d'un objet odieux, il en faut également distinguer dans l'amour et dans la haine. Nous avons même des mots à cet usage, tels sont ceux de goût, inclination, d'éloignement, répugnance, dégoût. Quoiqu'on ne puisse pas substituer à ces mots ceux d'amour et de haine, les sentiments qu'ils expriment ne sont néanmoins qu'un commencement de ces passions. Ils n'en diffèrent que parce qu'ils sont dans un degré plus faible. La statue ne peut aimer qu'elle-même. Au reste, l'amour dont notre statue est capable n'est que l'amour d'elle-même ou ce qu'on nomme l'amour-propre. Car dans le vrai, elle n'aime qu'elle, puisque les choses qu'elle aime ne sont que ses propres manières d'être. Principe de l'espérance et de la crainte. L'espérance et la crainte naissent du même principe que l'amour et la haine. L'habitude, où est notre statut d'éprouver des sensations agréables et désagréables, lui fait juger qu'elle en peut encore éprouver des uns et des autres. Si ce jugement se joint à l'amour d'une sensation qui plaît, il produit l'espérance. Et s'il se joint à la haine d'une sensation qui déplaît, il forme la crainte. En effet, espérer, c'est se flatter de la jouissance d'un bien. Craindre, c'est se voir menacé d'un mal. Nous pouvons remarquer que l'espérance et la crainte contribuent à augmenter les désirs. C'est du combat de ces deux sentiments que naissent les passions les plus vives. Comment la volonté se forme? Le souvenir d'avoir satisfait quelques-uns de ses désirs fait d'autant plus espérer à notre statue d'en pouvoir satisfaire d'autres que, ne connaissant pas les obstacles qui s'y opposent, elle ne voit pas pourquoi ce qu'elle désire ne serait pas en son pouvoir comme ce qu'elle a désiré en d'autres occasions. À la vérité, elle ne peut s'en assurer, mais aussi elle n'a point de preuve du contraire. Si elle se souvient, surtout, que le même désir qu'elle forme a d'autres fois été suivi de la jouissance, elle se flattera à proportion que son besoin sera plus grand. Ainsi, deux causes contribueront à sa confiance, l'expérience d'avoir satisfait un pareil désir et l'intérêt qu'il le soit encore. Dès lors, elle ne se borne plus à désirer. Elle veut, car on entend par volonté, un désir absolu est tel que nous pensons qu'une chose désirée est en notre pouvoir.